Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre site de vidéo Bible Espoir. Et je vous propose aujourd'hui que nous entreprenions une réflexion sur un sujet particulier que nous allons découvrir ensemble. Et je vous informe, je vous donne la situation biblique dans le prophète Ésaïe au chapitre 66 et au verset 8 et 9. Alors voilà ce que nous lisons et je vais y apporter un commentaire d'ici quelques instants. Voilà ce que Dieu nous dit. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Et un peu plus loin, il est question de cette parole, et c'est Dieu qui parle. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi, je fais naître. Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Alors voilà, c'est sur ces propos que nous allons commencer notre développement de cette pensée. Et je voudrais donner une petite mise en garde, c'est que le propos d'aujourd'hui, ce n'est pas le drame de l'IVG sanitaire, donc interruption volontaire de grossesse, parce que ça ne nous concerne pas et nous ne sommes pas là pour... En effet, aborder ce sujet, parce que nous savons que c'est un sujet qui est discuté, contesté, source pour certains de liberté et pour d'autres de culpabilité. Et nous voyons qu'il y a naturellement beaucoup de choses à dire, mais ce n'est certainement pas le rôle d'un pasteur d'aborder cette situation et surtout de développer... Maintenant, la Bible nous parle d'avortement spirituel. Et c'est surtout cette question-là qui nous intéresse. Alors je voudrais aborder cette situation sans jugement, sans a priori, et c'est tout simplement une constatation des faits depuis toujours dans l'histoire de l'homme sur la terre. Le titre que j'ai souhaité donner à cette pensée, c'est tout simplement « Créer pour vivre ». Et nous allons voir les deux aspects, créer naturellement, naître à la vie naturelle, en contact avec cette terre que Dieu a donné à l'homme pour s'y épanouir, pour se développer, pour se reproduire également. Et nous savons que la Bible nous parle aussi, et je crois que c'est la deuxième phase après la création, c'est en quelque sorte une dimension d'une vie nouvelle que l'on appelle la régénération. On peut peut-être dire cela. Et il va y avoir naturellement dans les exemples que je vais citer des personnes qui sont incriminées, que nous connaissons, des personnages illustres de la Bible. Et nous allons donc parler de ces hommes et de ces femmes qui peuvent nous enseigner justement sur cette double dimension créée pour vivre sur cette terre, les uns avec les autres, naturellement, et puis créer pour la dimension qui est celle du ciel, qui est celle de l'éternité. Alors, pour simplement aborder cette dimension de l'avortement spirituel, je voudrais dire encore deux mots sur ce que nous entendons par avortement. Le monde ne parle pas d'avortement spirituel, ça c'est clair, ça l'indiffère complètement et totalement. Mais c'est un drame. C'est un drame de l'humanité parce que ce qui a pour intérêt une vie temporelle, c'est-à-dire le temps de la vie ici-bas, a une répercussion qui est infiniment, d'une manière incommensurable, quand il s'agit de l'avortement, de la dimension spirituelle. Alors, le drame de cette humanité, c'est la privation, naturellement, de la vie. C'est l'élimination de cette vie, de l'existence. C'est l'empêchement de vivre. Vous avez remarqué avec moi dans le texte que nous avons ouvert, Dieu dit ceci, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Moi, je fais naître. Alors, est-ce que j'empêcherai, les enfants, un homme de naître, un homme, une femme de naître. Nous avons donc un premier exemple qui est un cri de détresse. Et dans le livre de la Genèse, eh bien, nous avons donc au chapitre 30 et au verset 1er cette parole. Et il nous est, je voudrais la rapporter parce qu'elle exprime, c'est vrai, le drame de l'enfantement, le drame de mettre au monde. Et je reprends donc ce passage, je lis bien donc de Rachel, vous pouvez le retrouver au chapitre 30 et au verset 1er. Il est dit ceci: « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants, elle dit à son mari Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. » Voilà, donc on est bien d'accord que l'enfantement, la mise au monde, c'est a pour destination de vivre. Hein, voilà, ça commence par l'enfance, et puis ça va se développer dans, naturellement, eh bien, la vie d'un homme jusqu'à la vieillesse. « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Il y a là un cri que l'on pourrait peut-être nommer et définir comme la douleur de l'espérance. En raison, tout simplement, eh bien, de ce que cette femme, Rachel, eh bien, ne pouvait pas concevoir, tout simplement. C'est un râle, et peut-être que certains diront la vie est mal faite parce qu'il y a des hommes et des femmes ou des couples qui voudraient tellement avoir d'enfants qu'ils ne peuvent pas en avoir, et puis ceux qui peuvent en avoir, eh bien, ils en ont peut-être de trop. Et ça, c'est un dilemme. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ainsi. Hein. Donne-moi des enfants ou je meurs. Douleur de l'espérance qui ne se réalise pas. Et c'est quelque chose, nous pourrons dire que c'est dramatique. Il y a une deuxième intervenante, on pourrait naturellement, et celle-ci on la connaît bien, il s'agit de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1er, c'était une femme qui était malade à mourir. Malade, j'ai bien dit, malade à en mourir, et elle avait au fond d'elle-même une ultime espérance. C'est pas qu'elle voulait de nombreux enfants, mais elle voulait en avoir un. Elle voulait en avoir un parce qu'elle avait déjà quelque chose qui reposait sur son cœur, de la part de Dieu. Autant Dieu, eh bien, l'a laissée pendant des années, dans cette épouvantable situation où elle pleurait, elle était véritablement éteinte en quelque sorte, jusqu'au moment où elle a eu cet enfant qui est arrivé miraculeusement, un don de Dieu, Dieu a donné. Et nous voyons qu'elle portait certainement dans son cœur ce pressentiment que cet homme deviendrait, eh bien, quelqu'un dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire aussi à nous. Et on sait très bien qu'elle a donné naissance à son petit Samuel, qui est devenu le grand prophète que nous connaissons dans l'Écriture sainte. Et Anne, elle dira, elle, de son côté, « Je suis une femme qui souffre en son cœur, et c'est par l'excès de mon chagrin que je suis ainsi, que je suis dans une position, dans une situation de grande souffrance. » Et c'est vrai que dans sa situation, et ça nous est bien dépeint dans 1 Samuel chapitre 1er, toute la misère de cette femme qui pleure toutes les larmes de son corps et du fond de son cœur, et qui là, eh bien, d'année en année, se tourne vers Dieu et là espère en Dieu pour qu'il lui fasse grâce. Donc je suis une femme qui souffre en son cœur. Et c'est ainsi que, eh bien là, toute ma vie est faite de cette douleur et de cette souffrance. Et elle exprime en quelque sorte, elle, à son tour, de sa manière, la désespérance de la stérilité. Certainement, c'était le problème de Rachel. Hein? Mais là, il est bien question que cette Anne était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter, elle avait un mari, mais elle ne pouvait pas enfanter. Et puis, il y a un troisième personnage, et je l'ai mis en troisième position, parce que finalement, c'est de lui que vient tout le problème. Les choses auraient été certainement différentes. Hein, la procréation, la multiplication, ce que l'on peut dire encore, toutes ces choses qui appartiennent au renouvellement des hommes sur la terre. Alors lui, c'est Adam. Hein, je l'ai mis en troisième position parce qu'il y a quand même quelque chose à dire. Hein, Adam et Ève. Et nous voyons qu'ils ont eu des enfants, hein, ils ont eu un garçon, deux garçons, et peut-être d'autres enfants après, c'est possible. Mais toujours est-il que ça s'est mal terminé, cette histoire, parce que l'un a tué l'autre. On connaît l'histoire de Caïn, l'histoire d'Abel, et c'est le dilemme. À partir d'Adam, c'est le dilemme de l'humanité perdue. Voilà. toutes ces choses sont arrivées après un phénomène où, je le nommerai d'une autre manière, c'est l'interdit à la vie spirituelle, à la vie éternelle. Alors, ils sont pas passés par le même chemin que nous. Hein. Nous naissons d'une mère. Hein. L'identification, c'est que nous avons tous un nombril. Mais je pense que Adam et Ève ne devaient pas en avoir, puisqu'ils sont sortis des mains géniales, des mains créatrices de Dieu. Alors, mais c'est parti. L'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme est partie sur la terre. Mais à partir de cette situation, à cause d'une désobéissance, les choses ont été véritablement voilées, elles ont été gâchées, hein, elles ont été détournées de leur destination. Et nous pouvons dire que c'est toujours la grande question que nous nous posons. Pourquoi il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants, d'autres pas? Il y en a qui en ont de trop, c'est la misère, on le voit bien dans le monde dans lequel on est, où là les enfants viennent au monde mais sans pouvoir avoir une vie décente, avoir la nourriture nécessaire, connaître des parents parce qu'il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses. C'est abominable tout cela. Donc on a parlé de Rachel, on a parlé de Anne qui typifie, enfin qui sont, eh bien là, qui dénotent quelque chose de tout à fait particulier, qui sont l'empêchement en quelque sorte, malgré eh bien un désir ardent et beaucoup de souffrance. Et puis, il y a également deux personnages qui ont marqué l'histoire d'Israël. Je n'en cite que deux parce que toute la Bible est parsemée de ce genre de situation, parce que nous avons été, de la part de Dieu, créés pour vivre. Donc, le roi Saül, c'est en quelque sorte une faillite. Là, on parle vraiment de faillite d'avortement. On peut parler d'avortement parce qu'il a été appelé par Dieu, cet homme. Il a été promis ou promu à une destinée tout à fait particulière, alors que c'était un simple Israélite. Et en quelque sorte, sa faillite, alors là nous touchons à des dimensions qui ne sont plus seulement naturelles, mais à des dimensions surnaturelles, dimensions spirituelles, c'est il a failli en raison de l'ambition, de la gloire et de la puissance. En quelque sorte, c'était un roi qui était ivre de sang et d'orgueil. Et nous voyons que Dieu lui avait promis des choses. Et dans sa dynastie, dans sa suite, avec ses fils, avec... Mais nous savons que ça n'a pas été très loin. Et ça, c'est un avortement de ce que Dieu avait promis de bon et que cet homme n'a pas saisi. Pourtant, il avait des femmes. Hein, à l'époque, c'était comme ça, hein, dans l'Ancien Testament. Mais toujours est-il que, comme il s'est livré à de la folie, hein, de l'orgueil, des prétentions inimaginables quand il est arrivé à la gloire, quand il est arrivé, eh bien là, à être élevé en dignité. Et nous voyons que ça, c'était, on peut dire déjà, un exemple, eh bien, d'avortement spirituel, d'avortement royal, d'avortement pour une véritable bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais il n'a pas été à la hauteur et il a donc complètement dévié. Le troisième, le quatrième maintenant, après avoir parlé du roi Saül, il y a le roi Salomon, qui lui a, on peut dire, il avait tout en main pour réussir. Et il caractérise l'idéal du bonheur, l'idéal du bonheur sur la terre. Hein, il avait un père qui s'appelait David, qui lui a donné la richesse, qui lui a donné l'empire, qui lui a donné la puissance, qui lui a donné des richesses, qui est extraordinaire ce Salomon. Et nous voyons que Salomon est sorti de la voie. Là où son père a réussi, le roi David, hein, bien qu'il n'était pas parfait, loin d'être parfait, lui, il avait tout pour pouvoir réussir. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence, il était poète, il était tout ce que l'on veut. Dieu l'avait doté de tout. Ce qu'on peut dire, et je le répète encore, de cet idéal que les hommes, en effet, eh bien, là, aspirent, en quelque sorte, il était comme si l'homme avait retrouvé le paradis perdu, hein, en quelque sorte, hein, dans son royaume, dans son empire, en quelque sorte. Alors, et tout cela parce qu'il est sorti du chemin par la désobéissance. Dieu avait dit, Dieu avait mis les choses à sa disposition au mieux, mais lui il a dit non, moi je ne vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Et c'était en quelque sorte la réponse du berger à la bergère, de ce que Adam avait commencé à gâcher, et lui il l'a véritablement achevé en quelque sorte. Alors nous avons parlé de Rachel, nous avons parlé de Anne, Nous avons également cité Adam, nous avons cité le roi Saül, Salomon. Et je crois que derrière tout cela, eh bien, en ce qui concerne Salomon, disons seulement qu'il représente le triste gâchis, une forme d'avortement pour avoir tout caché ce qui lui avait donné, ou la bénédiction de Dieu qui est sacrifiée, qui est piétinée, qui finalement, eh bien là, ne va pas aboutir. Et c'est ce qui peut nous montrer que dans l'humanité, comment le sage peut devenir fou, en quelque sorte. Fou, abusé par l'orgueil, abusé par la puissance, abusé par, en effet, la beauté, parce que c'était son cas, abusé par ses richesses, par toutes sortes de choses. Comment le sage peut devenir fou? Et je crois que tous les hommes, quelle que soit la trajectoire qu'il a leur, quelle que soit la position qu'il a leur, quelle que soit la connaissance ou non qu'ils ont de Dieu, nous savons que l'homme est capable de faire des choses terribles, non pas pour faire vivre, mais pour faire mourir. L'histoire des guerres, l'histoire des conflits, l'histoire des disputes, que ça commence au niveau d'une nation, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau d'une famille, que ce soit parents-enfants d'une manière ou d'une autre, nous vivons dans un monde où il y a les deux qui s'entrechoquent, qui se mélangent, la folie et également eh bien, la sagesse. C'est pour ça que Jésus nous dira à un moment donné cette belle parabole, il fera cette comparaison, mais le sage qui a construit sa maison sur le roc et le fou qui a construit sa maison sur le sable. Et si nous voyons la société d'hier, on en a cité quelques exemples, mais si l'on voit aussi et que l'on mesure et que l'on analyse la situation d'aujourd'hui dans notre monde, on se dit, mais quelquefois on marche sur la tête. Hein. Et ça touche quelquefois les choses essentielles, les choses secondaires, des choses qui quelque part n'ont pas une grande importance. Mais quand il s'agit des choses essentielles, telles que la vie, telles que la préservation de la vie, telles que la disparition de la vie, c'est le contraire, telles que nous le voyons, mais moi je ne veux pas donner, ce n'est pas, et je l'ai dit et je le répète, il ne m'appartient pas d'avoir de préjugés sur les choses, mais quand on voit que là, eh bien, des enfants meurent, que des nouveaux-nés disparaissent, quand on voit que des jeunes gens de 20, 30 ans, on les envoie à la guerre et ils vont mourir par milliers, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? C'est véritablement un avortement, en quelque sorte. Parce que l'homme est fait pour vivre et accomplir sa vie. Et qu'il soit emporté à un moment ou à un autre, comme le dit la Bible, comme une gerbe mûre, en son temps, c'est-à-dire dans la vieillesse. Mais quand on voit le monde des accidents, quand on voit le phénomène d'une manière ou d'une autre, on se dit, mais quel gâchis! Quelle perte! Et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui connaîtront des enfants qui ne connaîtront jamais la vie, d'une manière ou d'une autre. Alors ça se discute tout ça, c'est vrai. Hein, il y a des choses qui sont certainement eh bien, là à prendre en considération quand une jeune fille se fait violer et qu'on fait des lois pour qu'elle garde cet enfant qu'elle n'a jamais désiré ou dans toutes sortes de choses ou des situations épouvantables. Mais voilà, hein, on peut parler d'avortement. Des choses sur cette terre. Mais le plus important, et c'est là où ça nous intéresse de prendre une considération, que l'enseignement qui nous est donné sur le monde spirituel vient aussi déjà de l'exemple que nous avons déjà sur terre, en quelque sorte. Et ça, c'est dramatique. C'est quelque chose de dramatique, il faut le dire. Le prophète, un des prophètes de l'Ancien Testament, qui s'appelle Agée, eh bien, suscite une réflexion sur la nature des lois, des causes à effet. Et j'aimerais justement, eh bien là, prendre un exemple, parce que quelquefois on se dit, mais pourquoi ce drame? Pourquoi ces drames? Pourquoi ce comportement? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Eh bien, Agée va lever un coin du voile et va nous dire ses paroles, comme il le disait à Israël, parce que ça s'adressait à Israël, l'ancien Israël. Il dira ceci, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a tant de choses si tristes, pathétiques, dramatiques? Alors il dira à Israël, considérez attentivement vos voies. L'homme a reçu une intelligence de la part de Dieu. Et il sait très bien faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il a une conscience d'ailleurs pour cela. Alors il dira, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous avez beaucoup d'espérance pour la vie, pour autre chose, pour bien des choses. Alors vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Il ajoute, vous mangez et vous n'êtes jamais rassasié. Ça, c'est une, si on voit dans, sur le plan matériel de notre société aujourd'hui, c'est toujours jamais assez, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il est ajouté ceci, vous buvez et vous n'êtes jamais désaltéré. Alors ça, on peut lui donner beaucoup d'applications, hein, naturellement. Vous buvez et vous n'êtes jamais désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez jamais chaud. Vous n'avez jamais le confort, vous n'avez jamais le bien-être. Alors il y a bien un problème dans le monde. Il y a bien un problème, et là je le mets entre guillemets et je le surligne en parole, je dis mais il y a vraiment un problème d'avortement. Les choses sont faites pour réussir et elles ne réussissent pas. Et on le voit, que ce soit dans le monde, si on prend de la finance, où il y a des faillites, le monde industriel, le monde de tout ce que les hommes peuvent entreprendre. Alors bien sûr, il y a des qualités, il y a des formations, il y a des choses qui doivent s'acquérir. Ça, c'est sûr. Mais quelquefois, même avec la meilleure volonté, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on va savoir pourquoi. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Et le salaire de ce qui est à gage tombe dans un sac percé, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, vous le perdez. Tout ce que vous gagnez dans cette vie, mais vous allez le perdre lorsque vous devrez partir de cette terre. Vous n'emmènerez rien du tout. Et ça, ça s'appelle de ce que les hommes ne veulent jamais entendre et jamais considérer, que ce soit autour de cette question, des questions éthiques, comme nous en parlons aujourd'hui, morale et éthique. Parce que les hommes ont en horreur un mot, c'est le mot péché. C'est le mot « désobéissance à Dieu ». C'est le mot « nous ne voulons pas écouter ce que Dieu nous dit pour que nous puissions vivre et connaître le bonheur ». Et voilà, c'est ça justement. Et c'est ce que Agé nous rappelle. Et la question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors pour certains, ça marche. Alors peut-être que l'on pourrait penser que certains, ça marche parce qu'ils ne font peut-être pas les choses tout à fait en profitant des autres. Il y a toutes sortes de raisons, mais bon, ça ne rentre pas dans notre considération. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le monde en est encore? Alors peut-être, on nous dira, mais regardez les prouesses. Regardez, là, on va tourner à 450 km autour de la Terre. C'est formidable. La technologie, les sciences, les progrès de la médecine, etc. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont comme ça. Mais pourquoi le monde n'y arrive pas? Dans la paix, dans le bonheur, à s'aimer les uns les autres, à se faire du bien, à partager, alors que là, il y a des fortunes sur la Terre. Et quand on voit que 10% de l'humanité sur les 7 et 8 milliards, vous en avez 90% qui meurent de faim, c'est pas tout à fait ce chiffre-là. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a, en quelque sorte, à partir des desseins bienveillants de Dieu, du livre de la Genèse, avec cette image du paradis que Dieu a créé, pourquoi, pendant des siècles et des siècles, et ça continue, pourquoi ça ne marche pas? C'est un avortement. Il y a avortement spirituel, il y a avortement naturel ou matériel, humain, parce que justement il y a un avortement spirituel derrière. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que la vie s'arrête? Ah, c'est le problème de la mort, là, naturellement. Mais attendons que la vie et la nature fassent son effet, au lieu de tuer les gens avant qu'ils soient vieux. C'est tout bête ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même la réalité. Quand on voit que les conflits, quand on voit la guerre, quand on voit l'armement, quand on voit que tout ça c'est de plus en plus sophistiqué avec une ambition, eh bien, de détruire, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Vous savez, Cain a fait des émules. Alors que ce soit les religions, que ce soit la politique, que ce soit territorial, que ce soit des conceptions qui sont diamétralement opposées. Souvenons-nous de Babel. Où normalement il n'y avait qu'une seule langue. Après, il y en a eu 36 000 plutôt. Et que, quelque part, Babel, ça veut dire confusion. Comment se fait-il que la vie ne marche pas? Parce qu'il y a eu, finalement, et bien là, en quelque sorte, un avortement spirituel. La vie s'arrête. Quand on voit que Jésus va nous donner une parabole, et que je présenterai de cette manière, la foi qui meurt dans le champ des cœurs. Vous savez cette fameuse parabole de l'ivraie et du bon grain? Eh oui, c'est une belle parabole où Dieu le propriétaire dont il vous est parlé, va semer de la bonne semence, une bonne graine. Et à un moment donné, mais nous verrons pour la fin en conclusion, que là, il va y avoir une intrusion d'un ennemi. Il va y avoir une pénétration de quelque chose d'empoisonné, de poison. Et à partir de ce moment-là, il y aura un grand mélange. Ça ne sera jamais blanc, ça ne sera jamais noir, mais tout est gris, en quelque sorte. Et ça, ça pose aussi des questions. La foi qui meurt dans le champ des cœurs. Oui, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est pas seulement chez l'agriculteur qui, là, eh bien, a labouré, il a ensemencé, et puis il attend la moisson en espérant que ce sera du bon grain. Et puis quand il va commencer à mettre la faucille, eh bien là, sur les tiges de blé, eh bien il va s'apercevoir que c'est un gros mélange. Et qu'est-ce que l'on fait pour sortir de cela? Parce qu'il y a eu un avortement spirituel. C'est ce que nous dit Luc au chapitre 8. À relire, s'il vous plaît. L'ivraie qui tue le bon grain et qui fait le mélange des genres, le bien, le mal, le vrai, le faux, le bon, le mauvais. Et ça, vous pouvez le multiplier à l'infini, tout cela. La lumière et puis les ténèbres. Vérité, erreur. Ou, dans cette parabole de Jésus, il est question d'imperméabilité. C'est-à-dire que ça ne pénètre pas. C'est l'histoire du chemin, de la graine qui tombe sur le chemin. Superficialité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses au sérieux dans notre monde. Et surtout pas la parole de Dieu. Ça, c'est encore le moins, parce que ça fait sourire. Il faut dire que les religions ont fait tout pour discréditer Dieu, et discréditer par leur témoignage, comme on entend parler actuellement dans les scandales, de moralité. Eh bien, on peut dire que ça ne donne pas envie aux gens de croire en Dieu, hein, parce qu'ils font de Dieu, finalement, le responsable de tous les malheurs. Imperméabilité, superficialité, l'étouffement nous présente aussi cette parabole, parce qu'il y a des ronces, parce qu'il y a des épines, et tout cela, eh bien, ça ne laisse pas la lumière pénétrer, ça ne laisse pas l'accroissement, le développement, finalement, de la vie de ces végétaux, de ces bons végétaux. Ça s'appelle avortement, tout ça aussi, hein. Ça n'arrive pas à maturité. Un grain en donne deux, trois, chétifs, mais qui n'arrivent pas à leur terme. On peut parler de terrain piétiné dans le cœur, dans la vie, dans la conscience, de terrain encombré, de terrain empoisonné. Alors, on va passer à autre chose maintenant, ce que je pourrais nommer l'anti-avortement. Voilà, hein. Il y a des méthodes encore aujourd'hui, il ne faut pas... Voilà, il y a toutes sortes de choses. L'anti-avortement ou le miracle de la vie sur la mort. Vous savez, on ne connaîtrait pas le monde dans lequel on est, qui nous inquiète, qui nous angoisse, qui est anxiogène pour une grande partie de l'humanité, et tous les hommes, je crois, à un moment ou à un autre. Peur de perdre, peur de mourir, peur de ceci et cela. La peur, elle est partout, de toute façon. Alors, voilà, nous avons ce miracle de la vie sur la mort. Encore une histoire, il y a celle qui nous est racontée dans l'évangile de Luc, et vous allez la reconnaître tout de suite. C'est l'histoire de celui qu'on croyait mort, qui a vécu, qui a survécu, et qui est revenu à la vie surnaturellement né de nouveau, c'est le fils prodigue. Lui, il était au fin fond, finalement, de l'ivraie. Il était au fin fond de ses aventures et de son cœur, de ses folies, de toutes ces sottises, de toutes ces dépravations, de toutes ces souillures, on pourrait dire, on le croyait mort. Eh oui, je pense que dans sa maison et autour de lui, ça a commencé par son père, il disait « mais mon fils est mort ». D'ailleurs, il le dira. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Et c'est justement ça, cet anti, en quelque sorte, comme je l'ai dit, anti-avortement. Et nous voyons que il est né de nouveau à un moment donné. Il a entendu la parole de Dieu, il a entendu l'appel de Dieu. Ce n'était pas une question matérielle, ce n'était pas une question d'héritage, c'était plus ça, finalement. Il pensait gagner le monde. Mais bon, il a tout perdu dans tous les cas, hein, quoi qu'il en soit dans un premier temps. Et nous voyons que ce fils prodigue est mis en comparaison avec son frère aîné, dont on ne connaît pas le nom, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, son frère aîné, que tout le monde croyait bien, que tout le monde croyait que c'était un bon garçon, qu'il était très obéissant, qu'il faisait vraiment eh bien, là, le bonheur de sa famille, de son père, et... mais il était mort en réalité. Eh oui, vous savez, le monde aujourd'hui, ça c'est ma réflexion personnelle, on peut dire ce que l'on veut, hein, mais une chose qui est certaine, c'est que le monde se croit sage, le monde se croit intelligent, le monde se croit performant, et il attend l'âge d'or, où il n'y aura plus la mort, où il n'y aura plus la maladie, où il n'y aura plus ceci, où il n'y aura plus cela. Mais il se trompe. C'est une illusion. Hein, il essaie de faire bien, mais il ne produit que le mal, la preuve, parce que de toute façon, on n'arrête pas le mal. Il est plus fort, finalement, que tout cela. Alors, on le croyait mort. Non, on le croyait vivant. Mais lui, par contre, eh bien, il était mort, en réalité. C'est à lire aussi dans le chapitre 18, je crois, de l'évangile de Luc, hein, quoi qu'il en soit. Et que dire ? Et que dire de l'aventure de ce jeune homme riche, promis au plus bel avenir, qui se précipite un beau jour au pied de Jésus, en disant « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» On connaît cette histoire aussi. Hein. Elle est aussi connue que le fils prodigue, hein, d'une manière ou d'une autre, sous une autre forme. Mais il avait un problème. Il avait un problème qui est le problème de notre monde d'aujourd'hui, qui est le problème depuis toujours, pour ceux qui sont nantis sur la terre, pour ceux qui sont riches, pour ceux qui ont des fortunes, pour ceux qui gèrent des empires, à quelque niveau que ce soit et quelle que soit la nature de leurs empires. C'est-à-dire que, eh bien là, il va suivre Jésus, il va venir vers Jésus, il va vouloir, eh bien, suivre la personne de Jésus, et au dernier moment, il s'arrête. Ça, c'est une forme d'avortement aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui va crier fort dans son cœur et dans sa conscience. Il va dire, mais si tu suis Jésus, t'as vu qui est Jésus ? C'est un vagabond, Jésus. Oh, il parle bien, il a un programme formidable. Il présente à l'humanité un idéal extraordinaire. Mais il va dire, à un moment donné, mais moi, j'ai des biens, je suis riche, on me sert. Je suis au-dessus de, quelque part, bien de mes semblables. Et je vais perdre tout ça pour suivre un homme qui ne me promet que le ciel. Je vais devoir renoncer à la terre. Et au dernier moment, ça va casser. Avortement de la vie morale, parce que bon, elle est grande en jeu dans cette affaire. Avortement de la vie spirituelle. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Vous savez pourquoi ? Parce que le monde est idolâtre. Il n'adore pas Dieu. Le monde a une perspective, c'est tout simplement de vivre, de bien vivre, de faire le plus possible... Eh bien là, de s'accaparer le plus de bien possible pour se faire un nom. C'est comme dans la tour de Babel. Nous allons faire une tour qui monte jusqu'au ciel et nous nous ferons un nom sur la terre. Mais ça, c'est la folie, puisque on vient sur la terre, on arrive nu, nous dit Job, et on repart nu. Et ça, jusqu'ici, on a rarement vu un camion de déménagement aller jusqu'au cimetière. Hein. C'est pas possible. Et c'est une folie, cela. Et ça, c'est de l'avortement, en quelque sorte. Et cet avortement, eh bien, ce sont nos choix, ce sont nos ambitions, ce sont nos prétentions, c'est notre orgueil, c'est notre vanité, tout cela, c'est la même chose. Ouais. Jésus nous parlera de mammon, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, soit on va aimer l'un et on va haïr l'autre, et puis vice-versa, naturellement, hein, dans l'autre sens. On peut parler de stérilité, comme ces deux femmes qui pleuraient parce qu'elles étaient stériles, elles voulaient enfanter, elles voulaient donner la vie, elles voulaient qu'il y ait une après elles, eh bien, qu'il y ait véritablement une vie qui se poursuive. Stérilité, infécondité, que d'IVG, hein. Que d'interruption volontaire de grossesse, sur le plan spirituel, naturellement. Mais nous trouvons ces paroles extraordinaires dans la bouche de Jésus. N'a-t-il pas laissé ces mots à double sens, laissez venir à moi les petits enfants. Car ne les empêchez pas. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu, il est pour eux. La vie nouvelle, elle implique un sacrifice. Elle ne nous empêche pas de vivre, au contraire. Mais elle nous implique à donner la priorité, la prééminence dans toute notre vie, sur toute notre vie, sur tous nos biens, nos avoirs en particulier. Notre cœur en priorité à Jésus, et c'est lui qui va nous aider à gérer notre vie d'une manière convenable. Jésus n'a jamais été contre la richesse, il n'a jamais été contre la réussite, il n'a jamais, au contraire, mais béni par lui, et non pas béni par nos mains, en disant, bien, tout ça, c'est moi, Dieu n'existe pas, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de Dieu. Et les gens crient par millions et certainement par milliards aujourd'hui en disant, mais Dieu n'existe pas. Enfin, le Dieu de, la, le Dieu de l'Évangile, le Dieu de l'Esprit, attention, hein, parce que des dieux, il y en a. Hein. Je peux vous dire, les religions, elles en ont enfanté, mais alors, et c'est toujours multiplié avec des sectes et toutes sortes de choses. Hein. Alors, on en est là aujourd'hui. Et moi, j'aime bien cette parole, laissez venir à moi les petits-enfants. Que ce soit les petits-enfants des hommes, que ce soit les petits-enfants qui sont humbles, comme dans le sermon sur la montagne, et qui, quelque part, eh bien, ont des tempéraments et des caractères de la bonté, de l'amour, de la fidélité, et qui donnent la priorité, eh bien, aux paroles de Jésus, à la personne de Jésus, et à l'espérance en Jésus-Christ, pour cette vie présente et pour la vie à venir. Enfants de la terre au naturel, et enfants de Dieu que l'on assassine, que on suicide ou qu'ils se suicident par des espérances, qui sont avortées, qui sont éliminées de l'aventure de la vie et du salut. Ça, c'est quelque chose. Je termine. Maintenant, il faut identifier. Alors, on a parlé des causes, on a parlé des causes et des effets. Je l'ai nommé tout à l'heure, de cause à effet. On l'a vu. Maintenant, tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. C'est pas le produit. Ce n'est pas né de la poussière. Il faut identifier le tueur. Eh oui, il faut identifier le tueur, tout simplement. Et je voudrais lire un texte, parce que c'est Jésus qui nous parle de ce texte, et qui l'identifie dans Jean, chapitre 8, versets 43 et 47, vous pourrez le lire. Il est dit ceci. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, dit Jésus aux hommes ?» Et il parle particulièrement aux Juifs. Et il parle particulièrement aux gens religieux chez les Juifs. Pourquoi ne comprenez-vous pas ou ne voulez-vous pas comprendre mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous savez, la base de toute foi, de toute confiance en Dieu, de tout épanouissement en Dieu, de toute vie présente, bénie sur cette terre et bénie éternellement, eh bien c'est la parole de Dieu, mon langage. Ma parole. Vous avez, dira Jésus, alors ça, ça a dû les défriser. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été... s'ils étaient frisés, moi je ne sais pas. Hein. Frisés de la barbe ou des cheveux, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il dira, mais vous avez pour père le diable. Et ça, ça ne leur a pas fait plaisir. Et ça, ça a été certainement une des raisons principales pourquoi ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le, mets-le à mort, mettons-le à mort. Nous ne voulons pas entendre de telles choses. Vous avez pour père le diable, eux qui pensaient que c'était Dieu qui était leur père. Mais les œuvres qu'il produisait, le crime, la haine, hein, la sélection, enfin toutes sortes de choses, eh bien c'était, ça ne venait pas de Dieu, parce que ce n'est pas le cœur de Dieu tout ça. Hein. C'est la méchanceté, tout simplement, et c'est la domination, esprit de domination. Vous avez pour père le diable, nous avons lu, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ben, évidemment, puisque vous aimez ce qu'il est, vous aimez ce qu'il pense, vous aimez faire ce qu'il vous dit de faire, c'est-à-dire le mal. Et voilà, maintenant, naturellement, hein, le casier judiciaire du diable, on peut dire le casier judiciaire, il a été meurtrier dès le commencement, vous le savez. Adam, vous en souvenez. Caïn, vous en souvenez aussi. À travers l'échelonnement de toutes les histoires bibliques dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, mais n'est faite que de meurtres, de crimes, de sang. Alors, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'y tient pas dans la vérité. N'allez pas vous imaginer que ce que vous croyez, c'est la vérité, c'est le mensonge. Et vous êtes vraiment très, très prompt à croire le mensonge et à vous défier de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, ne le cherchez pas. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et ce qui est intéressant, c'est les versets suivants. « Et moi, moi Jésus, moi votre Créateur, moi qui vous ai donné la vie, moi qui vous ai donné la vie de la vivre et jusqu'à son aboutissement, c'est-à-dire jusqu'à votre blanche vieillesse, si l'accomplissement se fait normalement, naturellement, alors parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous préférez vos fadaises ? Vous préférez vos légendes, vous préférez vos fables, vous préférez vos philosophies religieuses, vous préférez vos théologies qui n'ont plus rien à voir et qui s'éloignent. vos traditions, toutes ces choses, ça vous les préférez parce que ça ne vous dérange pas dans votre conscience. Et ça vous permet de pécher, eh bien, allègrement. Vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si je vous disais l'erreur, vous seriez capable de marcher, mais je ne peux pas vous dire l'erreur parce que je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient à votre père, enfin celui que vous prétendez votre père, mais qui n'est pas votre père, vous en avez un autre. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors là, je peux vous dire que ça devait certainement, comme vaccin, comme antidote aux tentatives et au désir d'avorter, eh bien, je peux vous dire que ça a certainement remis les choses en place. Jean nous dit ces choses. Et Jésus est venu afin que les hommes naissent. Écoutez bien. Que les hommes ne se contentent pas de naître. Si on les laisse naître, vous connaissez l'histoire de Moïse qui a été jeté dans un panier dans le Nil et il devait vivre. Et il est devenu l'homme que l'on connaît dans l'Ancien Testament, prince d'Israël et également le sauveur de la nation des Hébreux. Parce que Dieu veut que les hommes naissent et qu'ils renaissent. Voilà la question. Jésus le prêchera, Jésus l'enseignera en lettres de feu dans l'évangile de Jean au chapitre 3, quand il nous parlera d'un certain Nicodème qui se pose la question qu'il ne s'agit pas d'être un bon chrétien, qu'il ne s'agit pas d'être un bon musulman, d'être un bon tout ce que vous voudrez avec une appellation religieuse. Non, ce n'est pas ça ce qui est important. Mais le plus important, c'est de naître à une vie nouvelle, à une nouvelle naissance, naître de nouveau, naître de Dieu, par la parole de Dieu. Alors qu'ils renaissent de mort, ils renaissent une naissance naturelle et connaissent la renaissance du ciel. C'est ça l'aboutissement, le ciel et l'éternité. Alors, pour conclure, permettez-moi de dire simplement, qui n'a jamais entendu pareille chose? Je reviens au départ, hein. Eh oui, faut l'entendre, faut vouloir. Qui n'a jamais rien vu de semblable? Parce que c'est pas seulement des paroles, c'est pas seulement du vent dans des paroles. C'est parce que nous avons les fêtes aujourd'hui. Depuis les temps immémoriaux, le mal existe, le bien existe aussi, mais on est beaucoup plus enclin à aller vers le mal que naturellement, que vers tout simplement le bien. Qui n'a jamais vu rien de semblable? N'allons pas dire que la mort n'existe pas, n'allons pas dire que la guerre n'existe pas, n'allons pas dire que l'interruption là de la vie d'une manière ou d'une autre, je ne parle pas seulement des enfants, hein, ça n'existe pas, mais ça existe tout ça, ça existe, ouvrons les yeux. Ouvrirai-je le sein maternel, c'est-à-dire, c'est pas pour faire naître là, c'est pour tuer. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit Dieu, moi qui suis le Créateur, moi qui ai créé l'homme, la femme, qui ai créé le Père, celui qui engendre, la Mère, qui enfante. Pour ne pas laisser enfanter, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, alors que Dieu nous donne sa grâce. Et est-ce que je dois employer le mot raisonnable? Est-ce que je dois employer un autre vocabulaire pour dire, mais regardez, regardons autour de nous, est-ce que le monde n'est pas assombré dans le mal, n'est pas finalement autour de nous, et nous vivons ces choses parce que ça devient tellement naturel tout ça. Ça passe finalement, là, en disant, mais ça a toujours été, ça sera toujours la même chose, alors que Dieu nous donne sa grâce. Réfléchissons, moi je vous laisse avec cette parole, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour orienter, j'ai donné la parole, j'ai essayé de composer un message pour nous montrer que tout ça, ça fait partie de l'humanité, mais que dans cette humanité, il y a une lumière, on l'appelle l'étoile brillante du matin, hein, on en reparlera bientôt au moment de Noël. Mais je veux dire que quand Jésus nous dit, et je reviens à des choses d'une manière très simple, quand Jésus nous dit « je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie », dans tous les domaines de l'existence, eh bien, ça peut s'appliquer à Jésus, ça s'applique à Jésus. Jésus est la réalisation de tout cela, parce que nul ne vient au Père que par moi. Et le Père, c'est quoi? Excusez-moi, le Père, c'est qui? C'est la vie. Et ce n'est pas la vie seulement pour quelque temps, pour ce que nous connaissons. enfermé dans un corps, l'incarnation que nous avons, mais c'est la vie pour l'éternité, dans sa gloire et dans le bonheur parfait. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles prédications.